C'est Daniel Martin qui a remporté la 6e étape du Tour de France. Greg Van Avermaet conserve le maillot jaune. On en parle avec Louis Bertrand qui est avec nous. Salut Louis.
Salut Jérémy.
Raconte-nous cette 6e étape au Tour de France.
Une échappée au long cours, comme à tous les jours, depuis le début du Tour de France. Ils étaient 5 aujourd'hui. Ils ont été repris une dizaine de kilomètres de la ligne d'arrivée jugée à Mur de Bretagne. Aujourd'hui, on avait une arrivée en côte, comme hier, mais aujourd'hui, c'était plus dur. Mur de Bretagne, c'est une bosse, l'Alpe d'Huez breton. C'est comme ça qu'on surnomme Mur de Bretagne. C'est une bosse de 2 km. C'est l'avant-dernier kilomètre qui est dur avec des passages à 12%. C'est un peu plus plat sur le dessus, sur le dernier kilomètre, appelé passage à la flamme rouge. On a vu un démarrage de Dan Martin à 1200 mètres de la ligne, 1,2 km. Il avait terminé deuxième à Mur de Bretagne en 2015, derrière le vainqueur de l'étape. La dernière fois que le Tour est passé par là, derrière Alexis Vuillermo. Alors, c'est sa deuxième victoire d'étape à l'Irlandais Dan Martin. Il avait gagné à Bagnères-de-Bigorre en 2013. Comme je te le dis, un démarrage vraiment loin, vraiment des jambes du tonnerre. Il a 31 ans. Il a terminé, attention, 9e du Tour de France 2016, 6e l'an dernier avec deux côtes fracturées à la 9e étape, d'accord, il y a 21 étapes. Présentement, il pointe à 25 secondes de Chris Froome, qui va être notre référence au classement général, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, Dan Martin devant Pierre Latour, le champion de France contre la montre, coéquipier de Romain Bardet, et Alejandro Valverde, qui termine 3e à Mur de Bretagne, comme en 2015.
Louis, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. J'ai écouté un reportage de cette 6e étape sur les ondes d'RDS ce matin, et là, on a expliqué un coup de bordure. Mais qu'est-ce que c'est un coup de bordure?
Bien, les soignants, souvent, des équipes se positionnent sur le parcours et vont avertir le directeur sportif. Au 98e kilomètre, la route tourne à droite. On va avoir un vent trois quarts face. Ça serait une bonne place où faire un coup de bordure. Il y en a eu un ce matin, des Quick Step. L'équipe de Julien Alaphilippe qui visait la victoire d'étape. Lui ou Philippe Gilbert pouvait gagner à Mur de Bretagne. Il y a eu un coup de bordure à 100 km de la ligne. Il y a eu un changement de trajectoire dans l'itinéraire. On tournait, puis on est arrivé avec un vent trois quarts face. Les Quick Step le savaient d'avance. Le directeur sportif le dit dans les oreillettes, le dit à la radio au gars, OK, quand on arrive là, ça tourne, vous allez voir, on peut faire exploser le peloton. Alors, il se place à l'avant, il pèse sur l'accélérateur et il se déploie en éventail. Comme des outardes dans le ciel. Et là, mon gars, je te dis que si tu perds la roue du gars qui est en avant de toi, là, tu peux terminer vraiment loin. Les Quick Step ont fait exploser le peloton. Malheureusement, la partie exposée au vent était très... Le segment était très court. On entrait dans une forêt ensuite. Il y a... Le peloton s'est effectivement scindé en trois. Il y a des favoris qui se sont fait prendre. Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana étaient dans des groupes à l'arrière. Ils n'étaient pas dans le premier peloton. Mais finalement, il y a eu un regroupement parce que, comme je te dis, la section exposée au vent n'était pas très longue, mais c'était une belle manœuvre des Quick Step. Parfois, ça fonctionne. Parfois, les groupes ne reviennent pas. Et tu vas voir dans une étape balayée par les vents, des écarts parfois à la ligne d'arrivée qui ressemblent à des écarts d'étapes de moyenne montagne. Il y a façon de faire exploser un peloton, non seulement en altitude, mais aussi dans les plaines, quand il y a du vent. C'est ça, un coup de bordure.
Bon, ben parfait. Merci beaucoup de l'information, mais ça me permet de te poser une des questions que j'ai reçues pour notre Tour de France pour les nuls. On parlait du rôle du directeur sportif. Ce que tu me dis, c'est que le directeur sportif qui a planifié toute cette séquence-là pour cette fameuse ce coup de bordure, raconte-moi, quel est son rôle précis dans cette automobile lorsqu'il communique avec l'équipe qui est sur la piste?
Ben, écoute, son rôle dans la voiture, c'est comme on le disait déjà hier ou la veille, distribuer des consignes à ses coureurs, s'assurer que tout le monde va bien, distribuer les instructions, encourager les gars. Parfois, tu sais, ces gars-là, juste une petite tape dans le dos, ça fait du bien. Il y a le meeting de l'équipe avant l'étape. Il y a un meeting d'équipe le soir à l'hôtel. On examine le classement général. On fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'étape de demain? Tiens, bon, prenons Vincent Lavenue chez les 2 heures la mondiale. Il va falloir qu'il travaille sur le moral de Romain Bardet, qui a été victime d'un bris mécanique, roue arrière brisée aujourd'hui à 3 kilomètres de la ligne. Il a croisé la ligne, Romain Bardet, le leader français de la G2R, la mondiale, le coéquipier de Pierre Latour, qui fait deuxième de l'étape. Bardet croise la ligne à 28 secondes du groupe des favoris. Tom Dumoulin chez Sunweb, voilà un autre qui aura besoin de se faire remonter le moral. Le vainqueur du Tour d'Italie 2017, le dauphin de Chris Froome sur le dernier Tour d'Italie, donc deuxième du Tour d'Italie au mois de mai dernier, Tom Dumoulin cède aujourd'hui 50 secondes au ténor. Il a brisé sa roue avant lui, en percutant Bardet justement. 50 secondes aujourd'hui cédées, plus 20 secondes en pénalité pour abri prolongé derrière la voiture d'équipe. Parce que son équipe a essayé de remonter Dumoulin alors que c'était la panique. On approchait de Mur de Bretagne, je te le dis. Sa roue avant brisée, c'est à 5 km de la ligne. Alors, Dumoulin est tout de même qu'à 21 secondes de Froome au général. Bardet à 43 secondes. Pour Dumoulin, il voit s'évaporer l'avantage qu'il avait sur Froome après 5 étapes où tout avait bien été pour lui. Alors, tu comprends, le directeur sportif, là, Jérémy, c'est la maman des petits gars, OK? C'est le gars qui s'assure que tout le monde va bien.
Dis-moi,
qui analyse la course et qui doit absolument distribuer des consignes ouais. intelligentes et stratégiques.
Dis-moi, est-ce que les petits gars écoutent toujours?
Tu m'en poses une bonne. J'étais dans une voiture d'équipe sur le Tour de Beauce en 2007. Valérie Kobzarenko avait gagné, c'est un Ukrainien, avait gagné Beauce en 2006. J'étais à bord de la voiture d'Ed Beeman. Beeman, Kobzarenko porte le maillot jaune du Tour de Beauce l'année après sa victoire en 2007. Il se laisse glisser à la voiture d'équipe pour demander des instructions à Beeman. On n'a pas de radio sur une course 2.2 comme Tour de Beauce. C'est pas une course World Tour. Beeman lui dit là, on attaque dans la bosse qui s'en vient. Kobzarenko de lui dire, ah ouais, hein? Ben, Beeman dit, oui, on attaque, là. On va faire exploser le peloton. Kobzarenko, il dit, tu le sais mieux que moi. Je pense que tu connais le vélo mieux que moi.
Oh.
Et là, il y a une belle engueulade. Moi, je suis assis là, je suis l'annonceur de la course. J'assiste à l'engueulade entre le directeur sportif et son Kobzarenko, son maillot jaune. Mais, tu sais, bon, regarde, c'est une anecdote. Est-ce que les coureurs se plient? Tu sais, les directeurs sportifs, la majorité sont d'anciens coureurs, j'ai mis, d'accord? Okay. Alors, ils connaissent le vélo. Oui, les coureurs écoutent et respectent le directeur sportif.
Ben, tout ça m'amène à l'autre question qu'on a reçue pour le Tour de France pour les nœuds. Je rappelle, jeremy.rainville@985fm.ca. Si vous avez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Je regarde, c'est Greg Van Avermaet qui est détenteur du maillot jaune présentement. Il est avec BMC. Et Van Avermaet est supposé de porter Richie Porte, qui est supposé d'être le coureur avec BMC. Là, c'est lui qui a le maillot jaune. La compétition entre les coéquipiers dans une formation, je veux que tu m'expliques tout ça.
Bien, écoute, pour Richie Porte et Greg Van Avermaet, c'est plutôt clair. Greg Van Avermaet n'est pas un homme de la haute montagne, c'est un puncheur. Écoute, il est le vainqueur de Paris-Roubaix 2017, un coureur de classique, le vainqueur du Grand Prix de Montréal 2016, le champion olympique à Rio, Greg Van Avermaet. Il ne sera pas appelé à épauler Richie Porte en haute montagne. Tout est bon à prendre. Le maillot jaune chez BMC, je te répète que c'est une équipe qui disparaît. BMC quitte le cyclisme. Alors, pour John Arkowitz, le patron de cette équipe-là, avoir le maillot jaune présentement, c'est une excellente opération. Il doit séduire d'éventuels parraineurs, souteneurs financiers. Alors, Greg Van Avermaet n'est pas le rival de Richie Porte. Greg Van Avermaet va jouir de sa première semaine. Il espère être en jaune dimanche pour l'étape qui va être jugée à Roubaix. Ce serait ça le rêve, lui, le vainqueur de Paris-Roubaix 2017, en jaune sur les pavés dimanche prochain. Quand on va arriver en haute montagne après la première journée de repos, Van Avermaet va disparaître. Il y aura d'autres gars chez BMC pour épauler Richie Porte en haute montagne. Donc, il n'y a pas de rivalité entre ces deux-là. La rivalité que l'on voit en ce moment, Jérémy, qui est intéressante, c'est celle entre Geraint Thomas, qui est à 3 secondes au classement général, et Chris Froome, n'est-ce pas, qui est à peu près à 1 minute, 50 secondes. Geraint Thomas pourrait devenir leader de rechange chez Sky si jamais Froome n'était pas aussi fort qu'il l'était sur le dernier Tour d'Italie. Il a légèrement fléchi aujourd'hui à Mur de Bretagne, Chris Froome, mais il dit, ne vous en faites pas, je vais avoir mes meilleures jambes sur les semaines 2 et 3. C'est long, le Tour de France. Alors, Geraint Thomas et Chris Froome, ce sont deux pseudo-amis. Mais Thomas, à 3 secondes, pourrait s'emparer du jaune éventuellement, et je le répète, pourrait devenir le coureur protégé chez Sky. Ça, c'est si Froome disparaissait dans les profondeurs du classement général, ce dont on peut vraiment douter de toute façon.
Louis, en 30 secondes, résumé, 7e étape demain, la plus longue étape, 231 kilomètres.
Oui, entre Fougères et Chartres, la plus longue, comme tu le dis, 231, l'étape marathon. Est-ce qu'il y aura un vent défavorable? Ben, on roule d'ouest en est, j'en doute un peu. On aura certainement une arrivée massive au sprint. Et tiens, on va mettre un 20$ sur Fernando Gaviria pour une, chez Quick-Step Floors, une troisième victoire d'étape sur ce Tour de France 2018. Oui, arrivée massive au sprint. Demain, je vois pas une échappée se rendre au bout.
Alors voilà, le pari est tenu et on se reparle demain. Merci beaucoup, Louis Bertrand.
Avec plaisir, Jérémy, à demain.
Voilà, maintenant, on s'arrête quelques instants et le plus gros tournoi du circuit Canada Pro Tour s'amène. Tous les détails au retour avec Jean Trudeau.